France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
C'est une histoire qui en contient plusieurs. Connue sous le nom de l'affaire du faux Brad Pitt, ce sont d'abord les déboires d'une femme victime d'une escroquerie en ligne, qui croit avoir affaire à la mère de Brad Pitt, puis à l'acteur lui-même, et lâche au passage plus de 800 000 euros. Le pays entier et au-delà s'emballe. On ne se prive pas de railler la naïveté de cette femme. Il y a des mèmes partout et des détournements en cascade. Tout le monde rit. Et voici la pauvre escroquée qui réapparaît au centre d'une campagne de harcèlement en ligne. Et puis, par un de ces retournements dont l'opinion a le secret, enfin les réseaux sociaux, les moqueurs et le fiel condescendant, le mépris dégoûtant, les blagues à trois balles finissent par se retourner contre leurs auteurs et la victime retrouve sa place. On se rend compte du mal qui lui a été fait, on s'intéresse aux mécanismes implacables des arnaques sentimentales en ligne. Il est question de prévention, de régulation, l'agent de Brad Pitt dit même un mot. La victime publie un livre et tout se remet plus ou moins en ordre. Pendant ce temps, une petite équipe s'est chargée de traquer le ou les arnaqueurs. Et nous nous intéressons aujourd'hui à un de ces garçons, au profil curieux, atypique, comme disent les agents immobiliers, qui lui-même a plusieurs vies. Ça commence du mauvais côté de la loi, et puis c'est la repentance, suivie d'une petite gloire, celle d'avoir démasqué le faux Brad Pitt. Tout de suite, l'histoire dans l'histoire, par Anna Benjamin.
Je m'appelle Marwan Mouarab, j'ai 30 ans. Alors j'ai grandi à Ris-Orangis dans l'Essonne. Je décrirais mon enfance comme une enfance plutôt agitée, entre la séparation de mon père et de ma mère. Ben, je devais avoir 4 ans, 5 ans. Moi, comme mes frères, on a dû se réadapter à la vie avec notre mère seule et à gérer un petit peu tous les problèmes de la vie comme ça. Donc en fait, c'était une mère célibataire qui assurait toute seule pour un foyer de 4 personnes. Donc j'ai un grand frère et un petit frère. Moi, je suis celui du milieu. Dans les trois frères, on va dire que c'est moi le vilain petit canard, parce que j'étais toujours celui qui ramenait des problèmes à la maison, qui faisait convoquer ma mère à l'école ou ailleurs. Mon année de sixième, c'était chaotique. Cinquième, pareil, chaotique. Puis quatrième, je me fais virer sur conseil de discipline. Donc j'ai arrêté de faire des bêtises à l'école, du coup. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque au collège, c'était vraiment l'informatique, c'était vraiment tout ce qui se tramait sur Internet, de pouvoir avoir des films gratuits, des albums gratuits, des jeux gratuits. À 10 ans, je commençais à craquer mes consoles de jeux pour pouvoir obtenir le catalogue des jeux gratuitement. Parce que forcément, on avait une mère seule. Déjà, c'était une prouesse qu'on puisse avoir. C'était la PlayStation Portable, c'était la PSP. Donc c'est des choses qu'on a assimilées à ce moment-là et qu'on a su reproduire de manière beaucoup plus simple dans d'autres contextes. La première arnaque que j'ai faite à l'époque, il faut savoir qu'il existe au sein des cinémas Gaumont-Pathé des cartes abonnement qui s'appellent les cartes Le Pass. Sur ces cartes Le Pass-là, il y a des codes. Ces codes permettaient aux clients des cartes Le Pass, donc les personnes qui les payaient, de parrainer des nouveaux membres. Et via le parrainage de ces nouveaux membres-là, ils obtenaient des points. Ces points-là leur permettaient d'obtenir des confiseries ou des avantages dans des cinémas un peu plus confortables et un peu plus haut de gamme. Et donc ces gens-là, ils avaient un site qui s'appelait lesparrains.com. Sur lequel ils balançaient leur numéro de carte Le Pass à tout va. Tenez, faites-vous parrainer, tenez, qui veut me parrainer, etc. Donc, c'était gagnant-gagnant. Sauf que je me suis aperçu, en tombant dessus par hasard, que les codes de leur carte Le Pass permettaient de réserver des places de cinéma. Et donc, je tombe sur ces codes-là, j'essaie de réserver une place de cinéma, je rentre dans la salle, je vais voir le film, ça fonctionne. Donc initialement, ça commence très artisanalement. On appelle les copains-copines, les cousins-cousines. Oui, allez, venez, on va au cinéma, c'est moi qui offre, allez, venez. Et de là, en fait, une idée me vient, je me dis, mais pourquoi je me mettrais pas à les vendre? Donc je mettais des annonces sur Le Bon Coin, sur Facebook, un peu partout. Et je proposais aux gens 4 euros à partir de 10 places, hein, évidemment. Donc il fallait qu'ils m'achètent 10 places ensemble. Et donc... Ça va durer entre 10 mois et un an, quelque chose comme ça. À ce moment-là, j'ai 16 ans. Je commence à gagner mon argent de poche. Et les cinémas Gaumont-Pathé, à un moment donné, commencent à repérer un petit peu qu'il y a des places qui se vendent sous le manteau. Et donc, du coup, les cartes Le Pass étaient systématiquement demandées avant l'entrée en salle. Donc, j'ai vu que les gens y rentraient plus dans les salles. Et donc, à ce moment-là, je vends des places à un monsieur sur Paris. Donc, je lui vends pour 300 euros quand même. Le gars, le lendemain, me contacte en me disant « Bah écoute, on peut pas rentrer dans les cinémas avec tes places, c'est de la merde, t'es un escroc. » Moi, forcément, je lui dis « Non, tu peux rentrer, tu racontes n'importe quoi, etc. » Il me dit « Ouais, ok, pas de souci. » Je me fais contacter un peu plus tard par une dame. « Oui, bonjour, c'est vous qui vendez des cartes Le Pass, d'accord, je suis intéressé, on peut se donner rendez-vous et tout. » Je lui donne rendez-vous dans le bâtiment qui est à deux rues de chez moi. Et en fait, j'arrive sur place, et donc la dame, elle se gare, j'arrive au niveau de sa fenêtre, je toque, elle ouvre pas la fenêtre. Et je vois le monsieur du coin qui j'avais vendu les places sur Paris, il arrive, il me dégomme, mais au sens propre du terme, je me fais agresser par un monsieur de 45 ans, chauve, sportif. Et là, bon, j'ai l'arcade sourcilière ouverte, je suis en sang, et les voisins appellent la police. Quand la police arrive, malgré que je sois l'escroc, bah, ils mettent les menottes à l'individu. Et là, je me dis, waouh, c'est incroyable ce retournement de situation. On me propose d'aller déposer plainte contre lui. Et je me dis, bon, je vais quand même voler de l'argent, je vais pas aller déposer plainte. Après les places de cinéma, on est passé ensuite aux places de concert. Ça a commencé avec le concert des BTS. C'est des chanteurs de K-pop, donc de pop coréenne, qui venaient pour la première fois à Paris en 2018. Leurs places de concert, elles se sont vues en une minute au sens propre du terme, sold out. Il n'y avait plus de places de concert de disponibles. Donc c'était monnaie courante pour une place à 200 euros de voir des gens chercher à 1000 euros la place, par exemple. Quand j'ai vu ça sur les demandes du Bon Coin, je me suis dit, ah, il faut vraiment que je trouve le moyen de produire des places de concert pour les BTS, parce que des demandes, il y en avait des centaines et des centaines. Donc on achète des places de concert pour notre loisir à nous, avec un ami, on les prend côte à côte, et on se rend compte que les numéros du code barre, ils suivent. Donc il y en a un qui finissait par 12, l'autre finissait par 13. Et les places étaient conjointes. Quand, en fait, on se dit, mais attends, il y a peut-être moyen d'interpréter le code barre, d'avoir tous les numéros valides de place de concert de la salle et de pouvoir reproduire l'intégralité de la salle en fausse place. Et donc du coup, bah, let's go. On lance un interpréteur et on trouve la bonne matrice de code barre. Et on a repris la matrice du ticket. On avait des supports cartonnés, donc des billets cartonnés. C'est ce qui faisait aussi que la place, elle était belle et que ça passait tout le temps. Et là, je lance mon entreprise de fausse place, quoi. Donc, ça surchargeait les salles de concert. Donc, il y avait énormément de gens à qui je vendais des places de concert qui se retrouvaient devant un siège sur lequel il y avait déjà quelqu'un. Ou alors quelqu'un qui avait acheté la vraie place qui se retrouvait sur un siège dans lequel, bah, il y a un de mes clients qui lui montre son ticket en plus de ça et qui lui dit, bah non, c'est à moi cette place. Donc, ça a été vraiment énormément d'événements et de concerts qu'on a fait. Ce que je faisais de cet argent-là, c'était vraiment n'importe quoi. Je partais sur des coups de tête dans des hôtels de luxe. Je m'achetais des vêtements de luxe aussi. Et ça coûte très cher, hein, d'avoir 1250 euros au pied ou d'avoir un pull qui coûte 800 euros. Ouais. On allait au restaurant, ça me faisait plaisir de payer pour tout le monde. Je faisais beaucoup de cadeaux, j'aidais beaucoup. Quand on était mon ami à cette période-là, on pouvait pas me raconter une histoire dans laquelle il te manque 100 euros pour finir la fin du mois. Ou alors, j'ai 3 loyers de retard. Ou des choses comme ça. Et donc, du coup, bah voilà, j'étais très généreux. Sauf que, un jour, je vends des places de concert à une policière qui ne s'est pas présentée en tant que policière pour le concert de Pink. Je me rappelle que je lui avais vendu 4 places pour 600 euros. Et donc, du coup, cette dame-là, 24 heures après que je lui ai vendu les places, elle me contacte en me disant « Ouais, mais les places, elles sont vraies, t'es sûre, etc. » Je lui dis « Bah oui, bien sûr qu'elles sont sûres. » Elle me dit « Oui, mais bon, c'est bizarre, l'encre, elle a bavé. On a vérifié, on a vu que sur ton ticket, il y avait écrit Cultura. On a appelé Cultura. Et Cultura ne reconnaît pas tes billets. Donc, rembourse-moi. » Donc, je lui ai dit « Non, je vais pas te rembourser. Salut, j'avais un faux numéro de téléphone. » Donc, je me suis dit « Bon, allez, je fais encore quelques clients, quoi. Et je coupe ma ligne. » J'ai republié l'annonce, je reçois 10-15 messages sur mon téléphone. Oui, voilà, je suis intéressé par les places de concert, etc. Et j'ai répondu à 2-3 de ces 15 messages. Et les deux, trois, en fait, c'était les policiers. Donc, du coup, je me fais interpeller directement. À l'époque, j'estimais que j'avais une tchatche hors norme. Et je me suis dit, bon, moi qui suis très éloquent, je vais pouvoir arriver devant un juge et lui expliquer formellement ce que j'ai fait en me défendant et en faisant en sorte que je fasse pas de prison suite à ça. Donc je suis arrivé en disant « Oui, je reconnais que je vous ai arnaqué, je suis désolé, je vais vous rembourser. » Sauf que j'avais pas de situation, j'avais pas d'argent de côté. Donc j'ai eu 10 mois de prison avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve avec un contrôle judiciaire, et puis j'ai été condamné à rembourser toutes les victimes que j'avais faites. Et c'est pendant les jugements que je me suis rendu compte que ce que je faisais, c'était vraiment n'importe quoi. Je suis tombé face à une dame que j'avais arnaquée qui avait le cancer. Je suis tombé face à un jeune homme qui était en obésité morbide, qui a pris le temps de se déplacer jusqu'au procès et qui trouvait à travers la musique de Pink la seule motivation qu'il avait. Donc j'ai remboursé les victimes comme un grand garçon, j'ai fait ce qu'il fallait pour conserver ma liberté. Ça m'a pas tout à fait arrêté, mais après c'était plutôt la fin justifie les moyens. Fin FIM. À ce moment-là, j'avais pas de travail. Et donc du coup, ça a été très compliqué. Il y a eu ma mère qui est tombée malade, il y a eu plein de choses et... Je me suis un peu retrouvé seul avec mes frères, qui n'avaient pas de travail à l'époque, à devoir nous dire « bon bah comment on fait maintenant pour pouvoir payer des courses ou autre ?» Et quand je me suis fait interpeller une autre fois, c'était pour le Hellfest. Le Hellfest, c'est un festival de métal et hard rock international. Et cet événement-là, il a lieu en France. Et à ce moment-là, en fait, je me dis « écoute, si je me fais attraper, je vais en prison, je m'en fous. » Et c'est ce que je leur ai dit au procès. Je veux pas perdre de temps à débattre avec vous. Oui, je l'ai fait. Mettez-moi en prison, ça y est. Mais en fait, je suis condamné à rien du tout. À rembourser les victimes que j'ai faites, et je les ai remboursées à l'instant T où on me l'a demandé. Ce qui se passe, c'est que la juge m'oblige à travailler. Donc, j'ai trouvé un travail d'animateur de vacances à l'étranger. Donc j'étais responsable d'animation dans un club de vacances à Naples. Alors ce qui s'est passé exactement, c'est qu'à Naples, j'ai rencontré une mère de famille qui a deux enfants, qui était mariée à quelqu'un. Et donc on discute, moi je viens d'Île-de-France, je raconte un peu le quotidien d'une cité, quoi, ce qui se passe dans mon quotidien. Et vers la fin de son séjour, elle vient me voir comme une fleur et elle me dit « écoute, tu connaîtrais pas des gens, toi, en région parisienne qui font des assassinats ?» Je suis sur le cul. Je me dis, mais si elle me pose la question, c'est qu'elle cherche. Et si elle cherche, c'est qu'elle est prête à payer quelqu'un pour ça. Et un assassinat, c'est pas 100 euros. Et donc, je dis, bah oui, je connais quelqu'un qui fait des assassinats en Ile-de-France, bien sûr. C'est 10 000 euros. Et elle me dit, bon, bah ok, tu me laisseras ton adresse email, etc. Pas de souci. Donc, je rentre de ma saison à Naples. Donc, je suis chez moi, je me réveille. Et je vois un message, en fait... Je serai à Gare de Lyon jusqu'à 17h. J'ai ce qu'il faut. N'hésite pas à me rejoindre. Voici mon numéro de téléphone, etc. Il m'a pas fallu très longtemps pour réfléchir et réaliser que c'était les 10 000 euros dont elle m'avait parlé à Naples. Je prends le train, je vais à Gare de Lyon en 30 minutes. Et arrivé sur place, donc je la vois. Et donc elle me passe une grande enveloppe format A4, marron. Il y a 10 000 euros en espèces. Et il y a surtout une lettre avec des instructions dessus. Je suis très content, je rentre chez moi, je me dis que la lettre, elle pourrait me servir, parce qu'il y a un procès qui est en cours entre les deux. Lui, de son côté, il veut récupérer la garde de ses enfants. Bon, 10 000 euros, c'est pas suffisant. Donc, je contacte le mari de cette dame-là, et je lui dis, écoute, c'est ton ex-femme qui va te faire tuer, quoi. Donc, j'ai toutes les preuves de ça. Par contre, je te les donnerai qu'en échange de 10 000 euros. Et le gars, malin comme un renard, il me dit, mais attendez, j'entends très mal, je vous rappelle. Il me rappelle. Oui, alors vous m'avez dit quoi ? Et moi comme un âne. Alors je vous ai dit, votre femme, elle veut vous faire assassiner, il faut me donner 10 000 euros pour pouvoir que... Voilà, enfin bref. Et un matin, j'ai la porte de chez ma mère qui explose. C'est la police. Dans le salon, il y a mon petit frère, il rentre, il le menotte. Il y a ma mère qui se réveille, elle voit voir ce qui se passe, il la menotte elle aussi. Et moi j'étais en caleçon, je dormais encore, c'est eux qui sont venus me réveiller. Et donc... Ils me disent « Marwan Wahab, on va vous emmener en garde à vue pour une tentative d'assassinat. » Je me dis « Ouais, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce truc de fou ? » Ma mère et mes frères, ils deviennent pâles. On est en train de leur dire que je pars en garde à vue pour tentative d'assassinat. Il laisse ma mère comme ça sur ça. À ce moment-là, déjà, je vois l'état dans lequel j'ai mis ma mère, qui est en rémission d'un cancer du sein, etc. Donc je me dis qu'à tout moment, je lui fais un coup comme ça, elle peut redéclencher sa maladie. Et l'électrochoc, c'est surtout que là, je me dis, attends. Là, tu t'es cru malin, t'as voulu arnaquer quelqu'un, et tu te retrouves à te défendre d'une tentative d'assassinat. C'est pour moi la plus grosse preuve que tes conneries, elles peuvent t'emmener au plus bas de ce monde. Et donc du coup, bah, on m'a saisi un peu tout le magot que j'avais mis de côté, mes téléphones, deux montres de luxe, mes ordinateurs. On m'avait vraiment mis à poil, et j'avais vraiment plus rien pour me relancer. Dans cette affaire-là, initialement, j'étais placé sous le statut de témoin assisté. Donc j'ai pris un avocat dès le début, il n'y avait pas de tergiversation. Puis j'ai été condamné à 8 mois de prison ferme, mais mon avocat a fait appel et c'est toujours en cours. Et donc j'ai eu un moment, une phase d'introspection qui a été très intense, et j'ai réellement décidé de changer en profondeur à ce moment-là, de me dire, ça y est, tu arrêtes toutes les bêtises, tu arrêtes tout ce qui est illégal, tout ce qui est argent sale, tout simplement. Et donc je me mets à travailler légalement dans un premier temps chez Maison Pierre, puis ensuite chez Métro, puis ensuite je fais des prélèvements nasopharyngés dans des pharmacies. Je fais des tests PCR. Donc vraiment j'ai tout fait, je me mets à travailler légalement. Et en fait à ce moment-là, j'allais dans des groupes Facebook de vente de montres de luxe. Et dans ces groupes de vente de montres, il y avait beaucoup de vols, des gens qui cherchaient à vendre leurs montres, mais une fois arrivés sur place, la personne leur ramenait des faux billets, ou alors la personne faisait un virement, puis un rappel de fonds tout de suite derrière. Et en parallèle, je découvre les outils d'OSINT. L'OSINT, c'est l'Open Source Intelligence. C'est l'art de se renseigner sur un individu, d'établir toute une empreinte numérique à partir de très peu d'informations. Et donc du coup, on va pouvoir, à partir par exemple d'un numéro de téléphone simple, ou alors d'une adresse email, ou même juste d'un nom-prénom, retrouver toute la vie d'un individu sur Internet. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait des vrais gens qui se plaignaient de s'être fait arnaquer ou voler leur montre dans le groupe, je me suis dit que je pouvais tenter de les aider grâce à l'OSINT. Donc, j'ai approché une première personne en lui demandant s'il lui restait des informations sur ce qui lui était arrivé. Il me dit, il me reste que le numéro de téléphone de l'escroc. Je lui dis, ok, pas de problème. Il me donne le numéro de téléphone et j'ai réussi à identifier la personne en moins de 5 minutes. Je me dis, bon, ok, l'OSINT, c'est puissant, ça fonctionne très bien et il va falloir que je réfléchisse à une manière de mettre ça au service des gens. Donc j'ai commencé à aider 2, 3, 4, 5 personnes. Puis ensuite, j'ai aidé le fondateur du groupe qui lui aussi s'était fait voler sa montre. Et il m'a dit, écoute, je vais faire un post dans le groupe dans lequel je vais dire à tous les membres qui ont des problèmes ou qui vont rencontrer des problèmes de te contacter. Un jour, je suis sur le groupe de montres et il y a une dame qui publie un message avec des captures d'écran, etc., des échanges, le bon coin qu'ils ont eu et tout. Et elle dit 80 000 euros de bijoux envolés aujourd'hui sur Paris. Si vous avez été témoin de la scène ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, etc. Et je me dis, tiens, ça pourrait être marrant de voir si sur une aussi grosse affaire, ça peut fonctionner. Donc je la contacte. Et là, en fait, pareil, je la contacte, elle me donne le numéro de téléphone. Je réussis à trouver l'identité du mec. Je trouve son compte Facebook, je retrouve des photos de sa femme, de ses enfants. Je vois où est-ce qu'il travaille, où est-ce qu'il va entraîner des enfants au foot. Enfin voilà, vraiment le gars, j'ai vraiment l'intégralité de sa vie. Et de là, on lance une pièce de théâtre. Donc ça, c'est très important aussi dans le hacking. L'ingénierie sociale. Donc l'ingénierie sociale, c'est l'art de pouvoir faire croire n'importe quoi à son interlocuteur au téléphone, alors que c'est faux. Tout simplement, c'est être un bon menteur au téléphone et avoir un objectif précis, puis l'atteindre. Et donc, je réfléchis, on était en plein conflit israélo-palestinien, et il y a une application qui s'appelle OnOff, avec laquelle on peut délocaliser nos numéros de téléphone. Donc, on peut avoir un second numéro de téléphone étranger sur notre téléphone. Et donc, le gars, je lui envoie un premier message avec un numéro de téléphone israélien, il répond, je me dis, bon, ok, il est réactif, c'est cool, je l'appelle. En me faisant passer pour un agent du Mossad, et je lui ai dit que j'étais un proche de la personne qu'elle avait arnaqué. Le gars, au début, il y croit pas, je me fais insulter copieusement. Je lui dis, ta femme, elle s'appelle comme ça, ton fils s'appelle comme ça. Je lui envoie des photos de sa femme et de son fils. Je lui donne énormément d'informations sur lui. Je lui dis, t'habites à telle adresse, tu travailles à tel endroit, et en plus de ça, tu vas entraîner des enfants à tel club. Et là, j'ai un silence. Il a dit qu'il allait trouver une solution, pas de problème. Il lui a rendu une partie des bijoux, et il lui a remboursé la différence de ce qu'il avait vendu. Le moment où elle a récupéré ses bijoux et son argent, C'était 72 heures après. Et du coup, elle me donne les premiers 10 000 euros honnêtes de ma vie. Là, je réalise à ce moment-là que je viens de créer une activité. Elle me rapporte de l'argent. C'est la voie royale. Je vais essayer de développer ça. Et puis, c'est comme ça que Find My Scammer va naître. Find My Scammer, ça veut dire en anglais « Trouve mon escroc ». Find My Scammer. Voilà. Aujourd'hui, je travaille avec 9 collaborateurs. Ça fait 3 ans que la société elle, est ouverte et on aspire à grandir encore. Et donc, notre métier il consiste à enquêter, à faire la lumière sur qu'est-ce qui se trame réellement et qui se cache réellement derrière une arnaque ou un cyberdélit. Donc, de donner suite à un rapport d'enquête qui sera recevable par les forces de l'ordre également. Et puis, à partir de ce rapport d'enquête-là, tenter d'apporter le maximum d'accompagnement auprès contentieux pour aider les victimes à récupérer leur argent et faire arrêter leur escroc. On résout tout type de cyberdélit. Ça peut aller de l'usurpation d'identité de personnes ou de sites internet jusqu'à l'escroquerie, la prostitution de mineurs. On a eu des séparations, la plupart du temps houleuses, dans lesquelles on doit identifier du patrimoine. On a eu du harcèlement. On a aidé un diplomate dans une affaire d'escroquerie sentimentale. Il y a eu plus récemment au Canada une fausse Lara Fabian qu'on a pu débusquer, qui était à l'Université de Montréal. Et la victime de cette fausse Lara Fabian avait perdu 400 000 dollars. On est très souvent sollicité par des gens connus, des joueurs de foot, des sportifs, des comédiens, des chanteurs, beaucoup d'influenceurs. Au total, en 2 ans, on a dû régler plus de 1000 affaires. La plus grosse affaire qu'on a faite, c'était pour un grand groupe pétrolier. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai pas le droit de vous en dire plus. Un jour, je tombe sur l'histoire du faux Brad Pitt. C'est l'affaire d'une mère de famille de 53 ans qui s'est fait arnaquer 830 000 euros. Et donc... Les escrocs, ils ont monté toute une pièce de théâtre autour de Anne. C'est une dame qui, de base, débutait sur les réseaux sociaux à 53 ans. Donc, elle arrivait sur Instagram, elle connaissait pas du tout le mode de fonctionnement. Elle a été approchée par une certaine Jeanne Etapit, qui est l'identité de la mère de Brad Pitt. Elle a vu ce compte-là l'approcher, qui avait 4000 ou 5000 abonnés. Elle s'est dit, ouais, quand même, c'est sérieux, y a beaucoup de gens, etc. Et la dame, elle a tissé un lien de confiance avec Anne en prétendant être son amie initialement. Personne ne parlait de Brad Pitt. Au bout de quelques semaines, la fausse maman de Brad Pitt a commencé à vouloir présenter Anne à son fils, qui est Brad Pitt. Donc vous aviez des faux documents d'identité qui étaient rattachés au faux agent de Brad Pitt, une fausse adresse mail, des faux réseaux sociaux. Et chaque personne qui avait un rôle dans cette histoire-là autour de Anne avait tous un numéro de téléphone, des réseaux sociaux, des sites internet. Enfin voilà, ils étaient tous vérifiables, on va dire. Petit à petit, ils ont demandé de l'argent à Anne. Toujours pour des raisons toutes tirées par les cheveux, mais toujours assez bien trouvées. Donc, je veux te faire un gros cadeau avec des produits de luxe, avec des montres de luxe, des bijoux de luxe. Mais bizarrement, il est bloqué à la douane, le colis. Donc, il faut que tu payes une grosse somme, d'ailleurs, parce que c'est des objets de valeur à la douane. Alors, elle a envoyé 75 000 euros de son compte bancaire vers la Turquie. Dans le libellé de son transfert, il y avait écrit « Transplantation Ringauche Brad Pitt ». Et à la banque, ils se sont dit « Ouais, ça passe. » Ok, de toute façon, c'est en Turquie qu'on va pour se faire les cheveux, les dents et les reins. Donc ouais, c'est logique. Donc c'est passé. Et donc quand Anne, elle a appris un matin en tombant sur les médias normaux, quoi, que Brad Pitt, il était sur une plage avec Inès de Ramon et qu'il se tenait main dans la main, qui était sa relation officielle, elle a fait une crise de jalousie au faux Brad Pitt. L'escroc, lui, il a pris en fait peur que Anne, elle disparaisse et qu'elle arrête de le payer. Il a fait une vidéo en intelligence artificielle dans laquelle une présentatrice de JT démentissait formellement la relation de Inès de Ramon et Brad Pitt et venait au contraire légitimer celle de Anne. C'est arrivé à Anne à peu près en fin 2023. Anne m'envoie tous les éléments qui lui restent sur l'escroc. Les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les sites internet qui ont été utilisés, les traces de paiement. Nous, on va trier les numéros de téléphone, on va trier les adresses mail, les sites internet, et on va dispatcher ça sur nos enquêteurs. Et à partir de ça, on va réussir à remonter, petit à petit, jusqu'à un emplacement exact. Donc on leur a envoyé un lien piégé, ils ont cliqué dessus, On a eu la position GPS exacte. On a pu s'en servir, les localiser, et elles ont pointé vers une maison à Kwale au Nigeria. L'outil qu'on a utilisé, c'est un outil qui laisse une marge d'erreur de 5 mètres. Donc là, clairement, c'est entre le salon et la chambre, quoi. Donc, c'est une grande maison qu'on peut voir par rapport aux maisons du voisinage sur la capture d'écran de photos satellites qu'on a sous les yeux. Et Kwale, c'est un quartier plutôt réputé pour les arnaques au Nigeria. Donc avoir une grande maison à Kwale et opérer depuis cette maison-là, on va dire que c'est un signe de richesse. Dans un second temps, grâce au site internet qu'ils avaient donné à Anne pour qu'elle puisse suivre le faux colis avec les bijoux de luxe dedans, ils lui avaient fait un faux site internet en fait pour lui permettre de suivre ça. Et derrière ce site internet, il y avait l'identité de l'administrateur du site qui est un des escrocs faux Brad Pitt. Ces gens, c'est trois individus d'une vingtaine d'années qui se faisaient passer à longueur de journée pour des célébrités auprès de pauvres monsieur ou de pauvres dames. Donc c'est des escrocs sentimentaux avérés, ce qu'on appelle des brouteurs. Il y en a beaucoup au Nigeria, il y en a beaucoup dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il y en a beaucoup aussi en Asie et aux Philippines. Au Nigeria, les brouteurs, c'est des célébrités. Ils sont riches. Tout le monde entend parler, par exemple, de Hush Puppy. Hush Puppy, c'est le plus grand brouteur de ces 10 dernières années. Et il est très connu là-bas, il est adulé, par exemple. C'est un peu comme des stars de télé-réalité au Nigeria, ou des influenceurs. Au Nigeria, c'est un sport national, l'escroquerie sentimentale. C'est l'arnaque la plus facile et la moins onéreuse à mettre en place, donc c'est l'arnaque la plus utilisée dans les pays sous-développés ou en voie de développement. Aujourd'hui, je suis complètement écœuré de l'argent sale et des escrocs et de l'escroquerie en général. Tous les jours, je retrouve des escrocs à travers les quatre coins du monde. Je fais en sorte qu'ils puissent se faire arrêter. Et voilà, je le fais vraiment avec le cœur. Même parfois, quand il y a des gens qui sont dans des situations très catastrophiques, je les aide de bon cœur. On parle pas d'argent et je les aide. Avant, quand il s'agissait d'argent, j'étais très peu empathique. Cette période-là, je la regrette parce que les gens que j'ai arnaqués, c'est des êtres humains qui avaient peut-être en rêve ou en projet de faire ce que je leur ai arraché. Et surtout, l'argent que j'ai généré a été de l'argent sale qui aurait pu servir à des gens qui en avaient vraiment besoin, comme les victimes que j'ai faites, quoi. Bah, c'est des choses que moi, je me pardonnerai jamais. Mais sans ce passage, je serais jamais devenu ce que je suis aujourd'hui. J'aurais jamais su, par exemple, comment réfléchissent les escrocs. J'aurais jamais su comment les prendre au mieux à contre-pied. Et je pense que c'est le seul point positif que je peux trouver dans ça, parce que sinon, tout le reste, c'est du négatif. Honnêtement, c'est un passage de ma vie dont j'ai honte. Parce qu'aujourd'hui, je suis complètement aux antipodes de ça. Je traque les escrocs. Je traque l'ancien moi tous les jours. Et donc, c'est complètement incompatible avec la personne que je suis maintenant.
C'était « Comment j'ai démasqué le faux Brad Pitt », un reportage d'Anna Benjamin réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Marwan Ouarab, à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et à notre stagiaire Adèle Toquet.